Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Canada est-il vraiment un sanctuaire pour les immigrants LGBTQ+? Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir. À l'international, le Canada est vu comme un champion des droits des personnes LGBTQ+. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses à demander la protection du pays en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, constatent des groupes. Mais des experts nous mettent en garde. Des défis existent encore, même dans le sanctuaire qu'est le Canada, et la haine à l'endroit des personnes LGBTQ+ s'exprime de façon de plus en plus décomplexée. Bien que le nombre de pays où l'homosexualité est criminalisée, une soixantaine aujourd'hui, ait diminué ces dernières années, les peines encourues peuvent aller de thérapie forcée jusqu'à la mise à mort, en passant par les coups de fouet ou la prison. Ainsi, pendant que l'ancien premier ministre Justin Trudeau hissait le drapeau arc-en-ciel sur la colline du Parlement l'an dernier, des milliers de personnes LGBTQ+ tentaient de fuir leur pays d'origine en raison de persécutions. Au Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, 95% des membres actifs sont de nouveaux arrivants, dont une grande majorité de demandeurs d'asile. Le nombre de ces membres est passé de 800 en 2022 à près de 5000 aujourd'hui. On voit beaucoup de gens qui arrivent ici et qui sortent enfin du placard, et aussi des gens qui vivent de la persécution dans leur pays d'origine à partir du moment où ils sont ici, raconte Josu Otigui-Alcaide, responsable des activités du programme La Boussole au Centre communautaire LGBTQ+, un programme justement né à la suite de cet afflux pour orienter ces personnes grâce à des ateliers sur le droit au travail ou au logement, par exemple. L'organisation Agir, également basée à Montréal, est passée de 80 à 100 membres soutenus par année avant la pandémie à plus de 500 aujourd'hui, dont plus de la moitié sont des demandeurs d'asile. Même s'il existe peu de statistiques officielles en la matière, la hausse est aussi sans équivoque à l'échelle planétaire, selon Rainbow Railroad, une organisation qui aide des personnes LGBTQ+ persécutées à se réinstaller ailleurs dans le monde. En 2024, elle a reçu plus de 13 000 demandes d'aide de partout dans le monde, signe d'une véritable crise, estime son directeur des communications, Timothy Chan. Du lot, elle est parvenue à en aider près de 6 000 et à en réinstaller 302. Rainbow Railroad est devenu un partenaire officiel du programme des réfugiés parrainé par le gouvernement du Canada en 2023, en identifiant et en dirigeant des personnes LGBTQ+ vers Ottawa. Le Canada, un paradis queer. C'est d'ailleurs le genre de partenariat qui renforce encore davantage l'image du Canada comme lieu sûr pour les communautés LGBTQ+. Une réputation bel et bien basée sur des faits, tranche Ahmed Amila, professeur de sociologie à l'Université de Montréal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la nuancer, s'empresse-t-il d'ajouter. À leur arrivée, plusieurs de ces demandeurs d'asile vivent une lune de miel d'une durée d'environ 5 ans, selon la plus récente collecte de données de M. Amila. Après, les personnes commencent à déconstruire cette image paradisiaque. Parce que, en plus du fait qu'elles doivent faire face à des enjeux d'homophobie ou de transphobie, s'ajoutent des enjeux de racisme et de xénophobie, des problèmes qu'elles ne connaissaient pas dans leur pays parce qu'elles faisaient partie de la majorité. Même au Canada, un pays où les droits LGBTQ+ font partie des valeurs intrinsèques, poursuit le spécialiste, il reste que, dans le traitement des demandes d'asile et dans l'accès aux soins et aux services sociaux, il y a encore de grands défis pour les personnes réfugiées, migrantes et racisées. Celui qui est également co-directeur de la clinique Mauve donne l'exemple des papiers d'immigration, qui permettent difficilement le changement de genre ou le choix du marqueur X. La situation est peut-être meilleure qu'ailleurs, mais ces personnes vivent de la discrimination en milieu de travail et dans le logement, et elles se heurtent à énormément de barrières pour avoir accès au statut de réfugié ou au système de justice, note aussi de son côté M. Otegi Alkaid. Si l'image du Canada continue à être celle d'un paradis queer, c'est que le pays a quand même fait figure de pionnier en la matière, poursuit M. Amila. En 1993, la Cour suprême a reconnu dans l'arrêt Ward que l'orientation sexuelle pouvait être un motif d'asile au pays. Mais c'est presque par hasard, au détour d'exemples donnés de l'appartenance à un groupe social, et non pas à la suite d'une demande précise pour cette raison, souligne-t-il. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 2002, que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a reconnu à son tour ce motif pour octroyer le statut protégé de réfugié. Un processus long et pénible. Même dans les pays qui reconnaissent ce motif d'asile, l'un des problèmes qui demeure est le fait que les autorités ont parfois tendance à vouloir une preuve de l'orientation sexuelle du demandeur plutôt qu'une preuve de la persécution elle-même, dit Ahmed Amila. Certains pays ont déjà utilisé des examens dits médicaux pour déterminer l'homosexualité, comme la phallométrie, un test banni en Europe depuis 2010, qui mesure l'afflux de sang vers le pénis d'une personne devant divers types de pornographie. Au Canada, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a quant à elle publié des directives plus claires, pour la première fois en 2017. Le modèle prôné au Canada est ainsi celui de l'autodéclaration, ce qui n'empêche pas certains commissaires de continuer à poser des questions stéréotypées, rapporte Josu Otegi Alkaid. Ils peuvent demander, par exemple, quelles bars gays les personnes fréquentent ou quelles applications de rencontres elles utilisent si elles connaissent le village gay, voire leur demander des preuves, comme des photos à caractère sexuel. Bref, pour quelqu'un qui a longtemps dû taire une partie de son identité, la vie au Canada n'est pas un simple vit-à-vie, poursuit M. Otegi Alkaid. En plus d'être sur le mode survie, il vit un choc culturel. Ce sont souvent des personnes qui ont dû se cacher toute leur vie et qui n'ont jamais eu de contact avec la communauté LGBTQ+, et soudainement, on leur demande d'écrire un récit identitaire et de s'impliquer pour prouver qui elles sont. Bientôt des réfugiés LGBTQ+, américains? Au printemps 2025, David Leblanc, avocat en immigration et directeur de Ferreira Wales Immigration, recevait une centaine de demandes par semaine de la part d'Américains cherchant à immigrer au Canada, dont une grande partie considérait demander l'asile. Quelques mois plus tard, au cœur de l'été, ce volume, confirme-t-il, demeure très élevé, surtout de la part du groupe le plus vulnérable, les personnes trans ou les familles ayant un enfant trans. Juste le fait que des Américains songent à faire une demande d'asile au Canada était impensable il n'y a pas longtemps, dit quant à lui Michael Hooge, avocat en immigration à Toronto pour le cabinet Green & Spiegel. Actuellement, il est surtout question pour ses clients potentiels d'avoir des options, si les choses empirent à long terme. Sa firme dirige donc surtout ces personnes vers des programmes d'immigration économique. Même dans le contexte actuel, et bien que le Canada reste à l'avant-garde en tant que refuge sûr pour les personnes LGBTQ+, dit Maître Leblanc, la reconnaissance du droit d'asile à un Américain est encore plutôt improbable. En théorie, les citoyens américains peuvent demander le statut de réfugié au Canada à la frontière. Ils ne sont pas soumis à l'entente sur les tiers pays sûrs, mais en pratique, ils doivent démontrer qu'ils sont exposés à un risque personnel et non pas collectif, de traitement cruel ou inhumain. Ils doivent en outre prouver l'impossibilité de trouver un refuge interne, un endroit sûr quelque part chez notre immense voisin du Sud. Cela n'a pas empêché Anna Krieger, une femme trans originaire de l'Arizona, de déposer une demande d'asile au Canada en juin 2025. Selon son avocate, Yamina Ansari, son cas sera un test quant à la capacité du pays à reconnaître la menace qui pèse sur sa cliente aux États-Unis. C'était « Le Canada est-il vraiment un sanctuaire pour les immigrants LGBTQ+ ?» un texte de Sarah R. Champagne, paru le 4 août 2025 dans Le Devoir.
Une première crèmerie à 17 ans. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse. Quand on arrive dans le stationnement de l'épicerie métro de Prévost, on n'est pas trop certain de ce que l'on voit au loin, au fond. Un conteneur? C'est exactement ça. À la fin du mois de mai 2025, Sim, comptoir glacé, s'y est installé, sans tambour ni trompette. Mais depuis, le bruit se répand. Le projet est piloté par une jeune finissante du secondaire. C'est en fait un projet scolaire qui a mené à la création du comptoir glacé CIM. Le nom CIM fait référence aux montagnes environnantes. Nous sommes dans les Laurentides, mais il rappelle aussi le surnom de Simone Groslot, 17 ans. Son travail de fin d'études lui a donné la base du projet. Lorsqu'il a été question de se lancer pour vrai, il a fallu pousser plus loin, notamment pour ce qui est des budgets. La nouvelle entrepreneure a rapidement réalisé qu'il y aurait plusieurs imprévus en cours de route. Les électriciens ont réalisé que la salle électrique était à l'autre bout du métro, raconte Simone Groslot, qui précise que c'est finalement par le toit que le courant est arrivé. En plus de tout le matériel pour la crème glacée, il a fallu acheter un transformateur, du matériel de plomberie, de réfrigération. Tout cela a fait monter les coûts de lancement. Le budget initial, évalué à plus ou moins 10 000 $, ce qui représentait le total des économies de l'élève, accumulé de ses emplois précédents, a été doublé. La mère de Simone, qui est à ses côtés dans l'aventure depuis le début, a complété le montage financier. Les affaires vont bien, et si la température favorise les ventes, les investissements seront remboursés avant la fin du mois. Commerce saisonnier. Il y avait déjà un comptoir de crème glacée à Prévost, et Sim voulait se différencier de la crèmerie classique en ajoutant, par exemple, du maïs éclaté au caramel dans ses coupes glacées ou de la crème de pistache pour faire un dessert au chocolat de Dubaï. Les sorbets et crèmes glacées offertes en cornet sont faits par Shawbridge Gelato, tout prêt. Ce n'est pas facile d'estimer les quantités, concède Simone Groslot, surtout dans un commerce où un jour de pluie fait baisser les ventes de façon draconienne. Heureusement, être à côté d'une épicerie permet d'aller se procurer des ingrédients à la dernière minute. Le conteneur, loué, était en partie aménagé. Simone et sa mère ont fait une finition temporaire et il quittera le stationnement de l'épicerie à la fin de septembre 2025. Simone, qui commence son cégep en sciences de la nature, pourra, à ce moment, se consacrer à ses études. D'ici là, elle perfectionne l'art du twist, car elle n'avait jamais fait de cornet professionnel avant. La crèmerie est ouverte de midi à 21 heures, 7 jours sur 7, et compte 6 employés. La plupart des clients viennent parce qu'ils ont vu la crèmerie sur les réseaux sociaux ou alors qu'ils l'ont aperçue du coin de l'œil après avoir fait leur course. Ils reviennent, explique la future étudiante, car les clients qui ont les bras chargés après avoir fait leur épicerie retournent à la maison mettre tout ça au frigo. La crèmerie attire toutefois son lot de cyclistes puisqu'elle est située juste à côté de la piste du Petit Train du Nord. Une entreprise soutenue. Dans ce projet, Simone Groslot a quand même eu du soutien. De sa mère, Marie-Chou Plamondon, d'abord, qui l'a accompagnée dans le démarrage de l'entreprise. Elle-même entrepreneur, elle avait les ressources pour mettre la main sur le conteneur et les contacts pour la création de la signature de Sim, qui se retrouve aussi, déjà, sur des vêtements à l'image de la crèmerie. Le soutien maternel va plus loin, puisque Marie-Chou Plamondon passe du temps dans le conteneur à servir de la crème glacée, ce qui n'était pas dans ses plans estivaux. « Ça me fait passer de bons moments avec ma fille », dit-elle, très fière. Ensuite, la ville de Prévost a permis qu'on installe un conteneur dans le stationnement, elle qui l'interdit ailleurs. Pourquoi? Notamment pour des considérations esthétiques, nous a expliqué le maire de la municipalité, rencontré par hasard dans le stationnement de l'épicerie, alors qu'il s'apprêtait à faire ses courses. C'était un beau projet, positif, affirme le maire, Paul Germain, qui précise que dans ce cas, la ville avait le pouvoir d'accorder une dérogation, ce qu'elle a fait. Finalement, l'épicier avait aussi plein pouvoir, puisque le métro de Prévost appartient à la famille Thibault, des commerçants indépendants, qui ont 6 épiceries de l'enseigne. N'importe quel commerce qui a la chance d'aider un projet comme celui-là va le faire, lance Martin Thibault, copropriétaire, qui ajoute que ses clients lui parlent beaucoup de la crèmerie. Assez pour dupliquer l'expérience dans le stationnement de ses autres marchés? Si Simone me demande d'installer un conteneur ailleurs, c'est oui tout de suite. C'était une première crèmerie à 17 ans. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse.
À quoi devrait aspirer CBC Radio-Canada? Un texte de Simon Gionnet paru le 16 juillet 2025 dans Le Devoir. Comment la société CBC Radio-Canada devrait-elle servir les Canadiens? À l'heure où la souveraineté culturelle du Canada revient à l'avant-scène sous la menace américaine, le Centre pour les médias, la technologie et la démocratie dresse dans un nouveau rapport les défis du diffuseur public ainsi que des initiatives à prendre pour assurer sa pertinence. Survol en 3 enjeux. Un financement à la hauteur du mandat. CBC Radio-Canada est réellement sous-financé par rapport aux médias publics de la plupart des grands pays, résume Au Devoir Jessica Johnson, co-autrice du rapport et ex-rédactrice en chef du magazine canadien The Walrus. En matière de financement, le pays ne consacre que 33,16 $ par habitant, comparativement à la moyenne de 79 $ parmi une vingtaine de pays, ce qui le place loin derrière le Royaume-Uni ou la France. Madame Johnson et sa collègue Emma Wilkie estiment que ce sous-financement limite le mandat de service public national de CBC Radio-Canada, notamment en réduisant sa capacité à couvrir les réalités régionales ou des minorités démographiques ou, encore, à déployer de nouvelles stratégies pour atteindre les jeunes auditoires. Ce retard budgétaire en comparaison avec l'international a été amorcé par les coupes du gouvernement de Jean Chrétien qui ont amputé de près de 30% le financement de CBC Radio-Canada, explique Mme Johnson. Il en résulte, selon elle, un phénomène de réduflation, malgré des coûts de production qui augmentent sous le coup de l'inflation. Le diffuseur public doit composer avec un budget limité et se voit forcé de réduire son offre, ce que les consommateurs canadiens finissent par remarquer et critiquer, note le rapport. Les chercheurs soulignent en contrepartie que 57% des Canadiens souhaitent que le financement de CBC Radio-Canada soit maintenu ou augmenté, contre 11% qui voudraient voir son financement aboli. Il voit dans ce soutien un désir des Canadiens d'obtenir une offre de meilleure qualité, ce à quoi le diffuseur public et Ottawa devraient être sensibles. Les chercheurs recommandent que le budget de la société publique soit en ce sens bonifié et indexé à la hauteur de son mandat. Cette proposition va d'ailleurs dans le sens de celle de l'ex-ministre du patrimoine Pascal Saint-Onge, qui proposait en février dernier de presque doubler le financement du diffuseur par les contribuables canadiens. Le gouvernement Carney vient toutefois de jeter une ombre sur ce projet en demandant à la direction de CBC Radio-Canada de réduire son budget de 15% d'ici 3 ans, malgré sa promesse de défendre le réseau formulée durant la dernière campagne électorale. Renforcer la confiance et la transparence. Le diffuseur public n'échappe pas à la crise de confiance des médias qui s'observe un peu partout dans le monde. Entre 2018 et 2023, le taux de confiance envers la société publique a diminué de 17%, rappellent les auteurs, constat établi à partir des données de l'Institut Reuters. Ce taux de confiance s'avère plus élevé chez les francophones du pays. Il se situerait à 78% contre 67% pour les anglophones, d'après un sondage du Centre canadien de politique alternative. Un écart que les chercheurs expliquent par un plus grand attachement des Québécois et des Franco-Canadiens aux programmes locaux de langue française. Au terme d'un sondage national réalisé en 2024, les auteurs ont néanmoins relevé que 78% des répondants souhaitaient que la société CBC Radio-Canada poursuive sa mission si elle répond aux principales critiques qui lui sont adressées. Parmi elles, on trouvait les biais perçus dans son traitement médiatique, le sous-financement du diffuseur ou encore la présence de publicité. Selon le rapport, CBC Radio-Canada pourrait renforcer la confiance du public en faisant preuve de plus grande transparence et ouverture. Les chercheurs préconisent notamment la création de conseils régionaux qui incluraient des citoyens et tiendraient compte de leurs préoccupations, à l'image de ce qui se fait en Allemagne. Afin de démystifier certaines décisions éditoriales, le diffuseur devrait aussi expliquer au public comment il élabore ses reportages, comme le fait déjà bien la BBC, soutient Mme Johnson. Les chercheurs affirment également que le PDG et le conseil d'administration ne devraient plus être nommés par Ottawa afin d'éviter toute perception d'ingérence politique. Le mandat de la société publique devrait aussi être évalué tous les 5 ans pour mieux s'adapter aux préoccupations des Canadiens. Il s'est écoulé plus de 30 ans entre la mise à jour du mandat du diffuseur en 1991 et sa révision en 2025, déplore l'ex-journaliste. La culture et la sécurité nationale en jeu. À l'heure où la souveraineté culturelle et la sécurité nationale du Canada sont au cœur du débat public, le rapport évoque par ailleurs l'importance d'un écosystème médiatique et d'un diffuseur public fort au pays. En matière de production culturelle, les auteurs rappellent que CBC Radio-Canada a été créé à l'origine pour répondre à la menace perçue d'une domination culturelle des États-Unis. Sur cette question, ils font valoir que le manque de financement du diffuseur public fragilise sa capacité à produire des contenus pouvant rivaliser avec les productions américaines ou étrangères. CBC Radio-Canada n'a pas autant de tolérance au risque, car elle ne peut pas se permettre d'échouer financièrement, remarque Jessica Johnson. Or, c'est justement le risque qui favorise un contenu de qualité. Il existe aussi une relation souvent méconnue entre un diffuseur public robuste et la capacité d'un pays à assurer sa sécurité nationale, fait valoir la chercheuse. De nombreux pays à l'étranger, en raison du déclin des médias privés, ont renforcé les mandats de leurs médias publics pour mieux se préparer aux situations d'urgence, de crise climatique ou de défense nationale, explique-t-elle. Elle cite le cas de l'Islande, en proie à la désinformation russe, qui a mis en œuvre un programme scolaire d'éducation aux médias, et celui de la Nouvelle-Zélande, qui a intégré son média public à la gestion des feux de forêt et des évacuations. Il est important pour un pays de disposer d'un ensemble commun de faits pour garantir la sécurité et la souveraineté nationale, souligne Mme Johnson, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'ingérences étrangères, de désinformation ou de questions de santé publique comme la vaccination. Pour la chercheuse, les appels du chef conservateur Pierre Poilievre à réduire le financement de CBC tout en épargnant celui de Radio-Canada, traduisent une incompréhension du diffuseur public. Les journalistes anglophones et francophones forment une équipe. Si vous supprimez CBC, vous créez un pays où le Québec et le Canada anglais sont isolés l'un de l'autre, fait-elle remarquer, ce qui fragmente du même coup la communication et la coordination entre les différentes populations qui occupent le vaste territoire canadien. C'était « À quoi devrait aspirer CBC Radio-Canada? » un texte de Simon Gionnet paru le 16 juillet 2025 dans Le Devoir.